Musicult saison 3, c'est la Electric Miles Davis Story en 12 parties. Aujourd'hui, c'est l'épisode 6, le brouet de Tepu. Attention, chef-d'œuvre. Miles Davis a changé plusieurs fois le cours de la musique connue sous l'appellation de jazz. Une première fois en 1959 avec l'album Kind of Blue qui consacra le jazz modal. Et donc une seconde avec Bitches Brew en 70 qui lança véritablement la vague de ce que l'on pourrait appeler le jazz rock. Pourquoi ce titre provocateur, brouet de pute ? L'origine est floue. Dans un mémorandum interne de la maison de disques Columbia daté du 3 novembre 69, on apprend que l'album devait s'appeler originellement « Listen to this », écoutez ça. Le producteur Théo Macero a reçu un coup de fil du trompettiste quelques temps plus tard qui l'amena à rédiger lui-même une note laconique à l'attention de Columbia. De point ouvre les guillemets. Miles vient d'appeler pour dire qu'il voulait que l'album s'intitule « Bitches Brew ». Merci de me donner votre retour sur ce sujet. En 69, Miles se cherche un peu. Il a publié In a Silent Way, un album assez expérimental, mais plutôt bien accueilli par la critique, dans lequel on entend du piano et de la guitare électrique. Cependant, dans son autobiographie publiée en 89 avec l'aide de Quincy Troupe, le trompettiste se plaint de jouer dans des clubs moitié pleins, ou moitié vides, car le jazz était passé de mode depuis plusieurs années. So, what's next? Derrière chaque grand homme se trouverait une femme, comme l'aurait écrit Fabien Sullivan grand-fils. C'est le cas pour Davis. Il s'est marié en septembre 68 avec Betty Davis, pas de relation, une ancienne étudiante en mode de 23 ans. Celle-ci va complètement le transformer, à la fois en modernisant sa garde-robe et son look, et en lui faisant découvrir notamment Jimi Hendrix et le funk de Sly Stone ou de James Brown. Bitches Brew aura une influence gigantesque sur toute une génération de musiciens. Sur cet album, Miles donne libre cours à toutes les expérimentations. Il fait jouer ensemble un nombre incalculable de musiciens, trois pianistes, Joe Zawinul, Larry Young et Chick Corea, trois batteurs plutôt hargneux, Lenny White, Jack DeJohnette et Billy Cobham, et il mélange la basse électrique de Harvey Brooks à la contrebasse acoustique de Dave Holland. La méthode était simple, Miles indiquait une direction, une note, un riff à suivre, et laissait carte blanche aux musiciens pour donner libre cours à leur propre imagination. La surprise fut énorme à la sortie de l'album. Les musiciens, déjà, ne se retrouvèrent pas dans l'ambiance des enregistrements. Dans son livre Miles de A à Z, Franck Bergerot cite le pianiste Joe Zawinul qui n'avait pas apprécié les sessions. Il avait vraiment une vision, s'était-il exclamé. Selon Bergerot, Chick Corea aurait lui aussi été déçu de ne pas retrouver l'intensité du live, notamment lors des concerts de Newport en juillet 69 et à l'île de Wight en août de la même année, juste avant l'entrée en studio. Pourtant, le disque, vendu sous la forme d'un double album, se vendit à 500 000 d'exemplaires après avoir conquis le public de jeunes amateurs de rock. Ceci aussi grâce au coup de ciseau avisé de Théo Macero, le producteur historique de Miles. We'll be right back. Le succès populaire de Bitches Brew ouvrit de nouvelles perspectives à la musique et à la notoriété de Miles. En décembre 69, il fait la couverture de Rolling Stone avec une photographie mythique de Don Hunstein. Ensuite, les portes du Fillmore, la célèbre salle de concert new-yorkaise du promoteur Bill Graham, lui furent ouvertes pendant 3 soirées de suite en juin 70, après le succès rencontré au Fillmore West de Los Angeles en avril 70. Les concerts dans ces salles respectives furent publiés ensuite sous forme de live. Le génie de Miles est aussi de laisser ses instrumentistes s'exprimer pleinement. C'est ainsi le cas du guitariste anglais John McLaughlin, qui donne carrément son nom à un morceau de l'album. En parlant de l'album, quelques mots sur sa pochette luxuriante. Celle-ci représente au recto un couple noir enlacé devant l'immensité d'un océan, avec une fleur rouge en feu au-dessous de la tête d'un homme noir qui semble observer la situation. Elle a été réalisée à l'instigation de Miles et est l'œuvre de Matti Klarwein, un peintre né à Hambourg qui a fui l'Allemagne nazie en passant par Paris où il a fréquenté l'Académie Julian. Klarwein a connu la célébrité à la fin des années 60 grâce à des tableaux dont des reproductions se sont retrouvées sur les pochettes de Hendrix et de Santana notamment, mais aussi Earth, Wind and Fire. La plupart de ces tableaux mêlent des éléments sacrés et profanes et célèbrent un monde utopique, multiculturel. Sa fille, Séraphine Klarwein, raconte dans l'édition du 40e anniversaire de Peaches Brew que de nombreux coups de fil ont été échangés tard dans la nuit entre Miles et son père et que celui-ci, Matty, s'était imprégné de la musique et de ses propres influences. Le verso de la pochette montre ainsi deux mains jointes l'une à l'autre, une noire, une blanche, ce qui est un symbole tibétain de la méditation. En 71, Klarwein réalisera la pochette de l'album live de Miles, Live Evil. Columbia publiera en 98, puis 2004, un luxueux coffret de 4 CD intitulé The Complete Peaches Brew Sessions, révélant toute la richesse de la musique créée en août 69, puis en novembre de la même année, mais aussi en janvier et février 70. Épisode 7, il sera question d'Agartha. D'ici là, bonjour chez vous.